Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse, déguisé en mendiant, vient de rentrer dans son palais. Personne ne l'a reconnu, sauf son vieux chien Argos. Il sait que les prétendants ont tendu une embuscade à Télémaque et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pénélope est intervenue pour que le mendiant qui vient d'entrer au palais ne soit plus persécuté. Eurymaque, l'un des prétendants, a découvert sa ruse. Elle a promis qu'elle prendrait une décision avant le lendemain. Sa nourrice Eurycléé a reconnu Ulysse sous son déguisement, grâce à une cicatrice qui date de son enfance. Pénélope vient le chercher pour qu'il lui donne des nouvelles de son mari. Il fait très chaud ce jour-là. Un soleil cruel fait ruisseler les fronts et rougir les peaux des hommes rassemblés dans la cour du palais. Pénélope reste debout, enveloppée dans ses longs voiles, à l'ombre d'un grand bougainvillier mauve. Les cigales poussent leurs cri-cri lancinants. Au centre de la cour, son fils, Télémaque, creuse une tranchée. Le trou est étroit et peu profond, mais très long. Les prétendants rassemblés là se regardent sans comprendre. Eurymaque fait un pas en avant. « Mais enfin, Pénélope, vas-tu nous expliquer ?» Au fond de la cour, les serviteurs attendent. Ils sentent qu'il se passe quelque chose d'important. Parmi eux, Ulysse le mendiant, le porcher Eumée et la vieille Oumariaca. Le dernier arrivé est un colosse barbu. Lorsqu'Ulysse l'aperçoit, un soupir de soulagement gonfle sa poitrine. Si Mentor est là, alors tout est possible. « Vous me demandez de choisir un nouveau mari parmi vous, n'est-ce pas ?» commence Pénélope. Un murmure d'approbation lui répond. « Eh bien, soit. Ulysse, mon époux bien-aimé, était un homme fort et valeureux. Il avait l'habitude d'utiliser l'arc que voici. Pénélope fait signe à Eumée d'approcher. En tremblant, le porcher présente l'arc d'Ulysse au prétendant. Dressé comme une proue de navire, l'arme semble les narguer du haut de sa splendeur. Seul Ulysse était capable de faire ployer cet arc pour pouvoir y fixer sa corde. Il le maniait à la perfection. Il savait si bien ajuster une flèche qu'elle pouvait transpercer successivement les trous de 12 haches fichées dans le sol. Poursuit Pénélope, et d'un geste, elle indique la tranchée creusée par Télémaque. Celui-ci finit de planter dans la terre 12 haches sans manches. Les 12 lames se dressent les unes derrière les autres. Les trous qui permettent de fixer le manche se retrouvent donc tous parfaitement alignés. Celui d'entre vous qui parviendra à réaliser cela sera mon prochain mari. Elle promène un sourire ironique sur la masse des prétendants. « Mais, à vous regarder tous, je doute fort que l'un d'entre vous parvienne à égaler Ulysse, car cet homme-là n'a pas son pareil sur terre. Néanmoins, je n'ai qu'une parole. Je suivrai celui qui réussira cet exploit. » Télémaque a fini les préparations et il se redresse d'un geste souple. « Mère, laisse-moi essayer en premier. » « Si j'y parviens, alors tu resteras au palais et ne prendras aucun nouveau mari parmi ce troupeau de vauriens. » Sa voix est suppliante. Pénélope pose sur lui un regard doux. Elle entend bien son ardent désir de la faire échapper à ce mariage forcé. Mais ce qu'elle devine aussi, c'est le désir inavoué de Télémaque de se confronter à son père, de l'égaler, voire de le surpasser. Alors elle donne son accord d'un signe de tête. Télémaque saisit l'arc avec respect. Il le soupèse un instant. Comme il est lourd. Toute la puissance de son père en émane. À geste lent, il essaie de tendre l'arc pour pouvoir y accrocher la corde. Une première fois, il échoue. L'arc ne bouge pas. Une deuxième fois, le bois plie légèrement. Télémaque bande ses muscles, tire. En vain. Des images se bousculent dans sa tête. celle de Mentor qui lui enseigne le maniement de l'arc, celle de son père qui parvient sans effort apparent à dominer l'arc, puis qui part d'un grand éclat de rire. Mais de cela, il n'a aucun souvenir réel. Ces images sont nées de son imagination. Dans l'assistance, chacun retient son souffle. Télémaque entame sa troisième et dernière tentative. L'arc semble lui répondre. Le bois commence à plier, à reprendre la courbure nécessaire pour y fixer la corde. Ça y est, j'arrive à égaler mon père. Tu as vu, père dit, tu as vu ? Télémaque garde ses pensées muettes, mais il ne peut s'empêcher de tourner les yeux vers le mendiant au fond de la cour. À cet instant, il rêve, plus que tout, de lire de la fierté dans les yeux de son père. Mais le soleil l'aveugle. Il n'aperçoit rien d'autre qu'un geste imperceptible d'Ulysse qui lui demande de renoncer. Télémaque repose l'arc en soufflant. Sans ce petit signe, le jeune homme serait-il parvenu à dépasser son père ? Qui peut le savoir ? Télémaque a échoué. Si l'un des prétendants réussit, le destin de Pénélope bascule. Le premier à se lever n'arrive même pas à tenir correctement le lourd cadre en bois et en corde de chèvre. Le deuxième est bien incapable de le faire plier d'un pouce. Le troisième échoue de la même manière. Chacun d'entre eux repart en maudissant le jour de sa propre naissance, en se lamentant sur sa honte et sur le temps perdu à attendre une Pénélope qu'il ne possédera jamais. Pendant ce défilé, Eurymaque ne cesse de fanfaronner. Il traite l'un de minable, l'autre de mauviette. Il apostrophe le troisième. « Ta mère ne t'a donc rien appris ?» Ou bien encore, « Tu devrais aller rejoindre les faibles femmes. » « Pauvre imbécile, se dit Ulysse, tu ne vois pas que la plus forte ici, c'est une femme, et de loin. » Pour tenter d'apprivoiser cet arc qui refuse de se plier, les prétendants allument un feu au milieu de la cour. Ils ont décidé de le faire chauffer dans l'espoir d'attendrir le bois. Le feu, ajouté au soleil, transforme vite la cour du palais en fournaise. Mais l'arc ne se plie toujours pas. Bientôt, il ne reste plus que Eurymaque pour relever ce défi. Il ne semble pas douter de sa victoire. Il se tourne vers Pénélope et ses yeux brillants la fixent cruellement. La reine reste droite et fière, sans bouger. Seul, Ulysse perçoit le frisson d'angoisse qui lui parcourt le dos. Le regard arrogant et sûr de lui, Eurymaque s'approche du centre de la cour. Il fait jouer les muscles de ses bras pour se montrer à son avantage. Et toute la troupe des prétendants, toutes les servantes du palais semblent sous son charme. Ulysse s'agace intérieurement de voir ce petit coq entouré d'admirateurs. « Ce garçon qui m'a insulté, qui m'a jeté un tabouret dans le dos n'a aucune valeur. Mais tous ces imbéciles le vénèrent parce qu'il a l'air fort. Comment peut-on prendre pour idole un tel personnage ?» Eurymaque attrape l'arc et essaie de le courber, mais l'arc d'Ulysse lui résiste. Eurymaque insiste. Il met toutes ses forces en jeu. Plus il tire, plus le cadre en bois et en corne semble rigide. Ulysse aperçoit dans la foule des serviteurs le visage de la vieille Umariaca. Elle arbore un large sourire. Peut-être sa protectrice utilise-t-elle ses pouvoirs pour faire échouer l'orgueilleux prétendant ? Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Peut-être est-ce l'arme qui n'accepte pas de se soumettre à d'autres doigts que ceux de son maître. Car certains objets sont doués d'une âme. Quelques cris d'encouragement, quelques discrets rires aussi fusent. Alors on voit Eurymaque s'énerver. Il jette l'arc au sol avec fracas. L'humiliation de son échec rend son visage écarlate. Il se met à jurer, à débiter un chapelet de grossièreté. À cet instant, Ulysse fait un pas en avant. « Me donneriez-vous l'autorisation d'essayer à mon tour, noble seigneur ?» demande le faux mendiant. Eurymaque saisit ce prétexte pour déverser sa colère sur quelqu'un d'autre que lui-même, et il se met à aboyer. « Toi, toi qui n'es qu'une larve, tu veux participer ? Mais regarde-toi, La crasse tient tes habits raides. Tu pues, tu quémandes ta nourriture. Et tu oses prétendre à la main de la reine ? Puis, dépassant toute limite, il ajoute avec un rire insultant. Ah, certes, Pénélope dort seule depuis si longtemps qu'elle ne fera pas la difficile. Mais toi qui couches sur le fumier et racles la terre avec tes ongles, toi qui n'es qu'un métèque venu d'ailleurs, ce serait cocasse de te voir hériter d'une reine. En entendant ces mots, Télémaque bondit. Cesse d'insulter ma mère, vaurien. Il se tourne vers Pénélope qui est au bord des larmes. Mère, retourne dans tes appartements, épargne-toi les goujateries de ce porc, je t'en prie. Mon cœur saigne quand tu entends de telles insultes. La servante Riclée prend doucement la reine par le bras et la raccompagne dans sa chambre. Mais ce que personne ne remarque, c'est que la nourrice d'Ulysse et la vieille Oumariaka ont échangé un coup d'œil de connivence. Discrètement, Riclée revient et avec Oumariaka, elles vont verrouiller les portes du palais. Plus personne ne pourra en sortir. Télémaque affirme alors d'une voix profonde. Ce palais est celui de mon père. Je décide que cet étranger a le droit de participer à l'épreuve, comme tout le monde ici. Nous sommes tous égaux devant les dieux. Il accompagne sa déclaration d'un regard si farouche que personne, pas même Eurymaque, ne se permet de le contredire. On voit donc le mendiant approcher de l'arc, le caresser du bout des doigts, puis le saisir soudain comme s'il s'agissait d'une plume. Toutes les conversations s'arrêtent et un silence impressionnant s'installe. L'homme se met à plier l'arc et celui-ci se courbe aussi facilement qu'un fétu de paille. La stupéfaction se lit sur tous les visages. Mais comment ce vieux mendiant peut-il accomplir ce qu'aucun de ces jeunes nobles n'a réussi ? Une fois l'arc plié, le mendiant lui attache une corde. Il la fait vibrer légèrement et un son presque mélodieux retentit. Quelque chose comme un pépiment d'oiseau à un gazouillis d'hirondelle au printemps. Ulysse voit certaines poitrines se gonfler d'une joie inexprimable. Eumée, Mentor, Télémaque, Euryclée, tous ceux qui lui sont restés fidèles reçoivent ce son comme un appel, comme un signal. Alors, Ulysse décoche sa flèche avec une facilité, une précision déconcertante. La flèche traverse les 12 trous des 12 haches plantées dans le sol. Le mendiant a réussi l'épreuve. Des cris accompagnent cette victoire. « C'est de la magie !» dit l'un. « Mais non, cet homme est un dieu de l'Olympe déguisé en humain !» dit un autre. Un troisième s'exclame. « Ce sera donc lui, notre nouveau roi !» En entendant ces mots, Eurymaque a l'air de se réveiller. Sa stupeur de voir l'étranger réussir là où il a échoué se transforme en fureur. « Ce nid de poux, nous gouverner ? Ce tas de vermine devenir notre roi ? Ah ça, jamais !» Et le chef des prétendants se rue vers le coin où il a laissé son épée dans l'intention de massacrer l'étranger. Mais où est donc passée son épée ? Eurymaque cherche son arme partout, sans la trouver. Il veut aller voir dans les autres parties du palais, mais à sa grande surprise, il découvre que les portes sont fermées à clé. Il se retourne d'un bond vers Ulysse. « Que signifie ceci ? Mais quelle est cette mascarade ? Tu nous as tendu un piège. Qui es-tu, étranger ?» Chacun peut alors voir le mendiant se redresser étonné. « Tu ne me reconnais toujours pas ? Pourtant, cela fait des années que tu souilles ma maison, que tu harcèles ma femme et humilies mon fils. » La panique remplace la stupeur sur le visage des prétendants. Les servantes et les serviteurs qui avaient été aux ordres des nouveaux maîtres du palais poussent des cris. Les prétendants courent partout, cherchent leurs armes, une issue. Eurymaque est devenu livide. Il bredouille. « Oh, grand Ulysse, mais c'est une joie de te voir vivant parmi nous. » « N'écoute pas les mauvaises langues. Nous n'étions venus chez toi que pour tenir compagnie à ta femme et à ton fils, pour veiller sur ta mémoire. » C'est alors qu'un orage éclate. Un énorme éclair, suivi d'un retentissant coup de tonnerre, coupe la parole à Eurymaque. « Merci, Zeus, d'être à mes côtés pour me faire justice. « Tu ne tolères pas, toi non plus, les menteurs et les lâches !» hurle Ulysse. « Tes amis et toi, Eurymaque, vous m'avez trahi. Vous auriez mieux fait de rester dans vos familles plutôt que de vous installer chez moi et de tout saccager. Mais sachez-le, ce palais sera votre tombeau. » Et il envoie une flèche qui atteint Eurymaque en pleine poitrine. Aussitôt, Télémaque distribue à Eumée et à Mentor des armes qu'il avait cachées dans un coffre. Ils se placent aux côtés d'Ulysse et commencent à tuer tous les prétendants qui se trouvent là. Le massacre dure longtemps, trop longtemps, et pas un prétendant, pas un de ceux qui avaient trahi le roi d'Ithaque n'en réchappe. Bientôt, le cliquetis des armes cède la place à un étrange silence. Des rigoles creusées dans la terre par l'orage charrient du sang. On ouvre les portes. L'eau rougie s'évacue, dévale les ruelles d'Ithaque. Ses fidèles amis se pressent autour d'Ulysse. Eumée, encore stupéfait de n'avoir pas reconnu son maître derrière le déguisement du mendiant qu'il avait accueilli chez lui, virevolte de droite et de gauche. Mentor serre Ulysse sur sa poitrine, l'éloigne pour mieux le voir, puis il le serre à nouveau contre lui. Son émotion se passe de mots. « Merci. Merci d'avoir pris soin de mon fils, lui dit doucement Ulysse. Quand je regarde Télémaque, je vois un fier jeune homme qui a poussé bien droit malgré les vents mauvais, et je sais que c'est grâce à toi. » Télémaque reste légèrement en retrait de tous ces signes d'affection. Il ne prend pas garde aux propos de son père. Ses yeux fixent l'arc posé au sol, cet arc qu'il n'a pas réussi à dompter. Il se promet, en son fort intérieur, de parvenir à le faire plier, lui aussi, un jour. Dès que les corps des prétendants sont évacués, Ulysse allume un grand feu au centre de la cour. Il saisit une torche et la promène lentement sur les murs du palais. C'est un geste de protection que chacun le regarde faire avec respect, en comprenant sa signification. Ulysse purifie ainsi les lieux, ceux de son ancien bonheur, pour que la mort et la douleur s'en échappent à jamais. Comme s'il voulait, avec cette bénédiction muette et sauvage, apaiser ces murs qui en ont tant vu. Le soir tombe doucement sur l'île. Ulysse sait qu'il lui reste à accomplir sans doute le plus difficile. Retrouver Pénélope, oui. Sa femme l'a attendue, espérée nuit et jour pendant 20 ans. Mais elle aimait l'homme qu'il était il y a 20 ans. Saura-t-il se faire reconnaître et aimer tel qu'il est aujourd'hui ?